bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Alors, comme cela a été annoncé, nous allons terminer non seulement la série d'émissions, mais en particulier, j'avais commencé la fois dernière à parler de la charité, de la vertu théologale ou théologique de charité. Et je vais donc terminer en parlant de la charité envers soi-même et envers le prochain. Quand nous faisons usage de la charité, c'est pour aimer Dieu et le prochain. Une réflexion sur la charité envers soi-même semble donc superflue. Pourtant, dans un texte qui sera repris par saint Thomas, saint Augustin affirme: il y a quatre choses à aimer. Une qui est au-dessus de nous, Dieu. Une autre qui est nous-mêmes. Une troisième qui est à côté de nous, le prochain. Une quatrième au-dessus de nous, notre propre corps. Cette manière de placer la charité envers nous-mêmes avant la charité envers le prochain étonne et heurte peut-être la sensibilité de nos contemporains. Pourtant, il s'agit là d'une intuition qui, si elle est bien comprise, se révèle très pertinente. Nous pouvons montrer que la charité envers soi-même, bien distinguée de l'amour égoïste de soi, non seulement ne s'oppose pas à l'amour du prochain, mais est nécessaire pour que celui-ci soit un authentique amour de charité. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre la charité envers soi-même avec l'égoïsme. L'égoïsme, c'est celui qui ne pense pas à moi. C'est une petite blague. Mais plus sérieusement, l'égoïste est celui qui se préoccupe de satisfaire ses propres désirs ou désirs égoïstes. Il donne l'impression de bien s'aimer lui-même. Et ce serait le cas si l'homme n'avait qu'un seul désir. Si l'homme n'avait pas péché, son désir spirituel aurait été en mesure d'unifier sa personnalité et l'amour de Dieu aurait comblé son cœur. Mais dans la situation présente, marquée par le péché, nous faisons l'expérience d'une division intérieure. Nos désirs sont multiples et contradictoires. Nous en faisons l'expérience. Si l'homme se laisse dominer par les convoitises charnelles, loin de trouver son unité, il court le risque de se disloquer intérieurement. C'est pourquoi la plupart des hommes acceptent de se laisser guider, dans une certaine mesure, par leur conscience morale et ils réprouvent l'égoïsme lorsque celui-ci est érigé en système. Mais l'expérience montre qu'une morale purement humaine ne suffit pas pour trouver l'unité intérieure et vivre heureux. Grâce à la charité, l'homme, loin de renoncer à son désir, l'ordonne de façon juste. Il trouve en Dieu celui qui le pacifie et qui comble le désir de son cœur. En cela réside la charité envers soi-même. Cette charité qui comble le désir de l'homme est également ce qui l'ordonne et l'apaise. Saint Thomas note avec saint Augustin et Denis l'Areopagite que toute chose désire la paix, tend vers la paix. Mais livrés à leur propre force, les hommes ne parviennent qu'à une concorde provisoire. En effet, tant que chacun n'est pas en paix avec lui-même, l'accord des volontés n'est que partiel. La paix véritable va plus loin que la concorde, comme l'explique saint Thomas dans un texte magnifique. La paix, c'est d'abord la concorde, mais c'est quelque chose de plus. Partout où règne la paix, règne la concorde. Mais la réciproque n'est pas vraie, si l'on entend la paix selon son acception véritable. La concorde proprement dite implique une relation à autrui. C'est le consentement des volontés de plusieurs personnes, mais il arrive que dans la même personne, des tendances opposées se manifestent, soit entre les désirs sensibles et spirituels, la chair ayant des désirs opposés à ceux de l'esprit, confère l'Épître aux Galates, soit dans le même désir par rapport à divers objets qu'il ne peut atteindre tous à la fois. À l'encontre de ces mouvements en sens contraire, c'est le rôle de la paix d'établir l'union, car le cœur humain n'a point de paix lorsque, ayant quelque chose qu'il désire, il désire encore autre chose qu'en même temps il ne peut avoir. Mais cette union-là est étrangère à la concorde. Celle-ci comporte une union des désirs de plusieurs hommes, tandis que la paix va plus loin et unifie les désirs d'un seul. Texte vraiment magnifique à méditer, car il nous concerne tous. Cette unité n'est pas possible, ou plutôt elle n'est possible que par l'influence des vertus. Sans la charité, l'influence des vertus acquises demeure imparfaite et incapable d'unifier l'être humain autour de son désir le plus profond. La paix du cœur ne peut être obtenue que par la charité, source des vertus infuses, et donc capable d'unifier l'être humain et de l'entraîner vers sa fin ultime. Nous percevons ainsi, grâce à saint Thomas, quelle est cette paix que Jésus donne à ses amis et qui est différente de la paix qui vient du monde. On peut se reporter à Jean chapitre 14, verset 27. Alors posons-nous maintenant la question, peut-on aimer autrui sans s'aimer soi-même? Une question qui est vraiment extrêmement importante. Les chrétiens sont en général alertés sur le caractère suspect d'un amour de Dieu qui ne se traduirait pas dans un amour effectif pour le prochain. La parole de saint Jean sur ce point est on ne peut plus claire. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère est un menteur. Première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 20. Mais peut-être n'ose-t-on pas assez les alerter, les chrétiens, sur l'impossibilité d'un véritable amour du prochain lorsqu'on n'est pas soi-même suffisamment heureux. En soulignant la priorité de la charité envers soi-même sur la charité envers le prochain, en tout cas comme un préalable, Augustin et Thomas nous donnent sur ce point un éclairage précieux. Contrairement peut-être à nous, les hommes de l'Antiquité, du Moyen-Âge, voyez clairement que tout homme est en quête de son propre bonheur et que tout ce qu'il accomplit est lié à cette recherche. Le comprendre, c'est comprendre que tant que l'homme n'a pas trouvé son propre bonheur, il n'est pas possible que l'amour qu'il exprime à son prochain ne soit pas au service de ce désir de bonheur. De nos jours, même si ça date un petit peu, le succès rencontré par les ouvrages du philosophe André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus en particulier, vient de cette redécouverte adaptée à notre temps des perspectives de la sagesse des anciens. Tout en se proclamant matérialiste, enfin la philosophie matérialiste et athée, Comte-Sponville reprend la doctrine chrétienne de la charité envers le prochain. Et loin d'en faire une exigence moralisante et culpabilisante, il souligne que cette charité est liée à la sagesse et à la lucidité, source de paix et de joie, source d'une vie active et heureuse. Voyons maintenant la charité envers soi-même et la question délicate de la souffrance. Pour aimer son prochain d'un amour de charité, il faut être heureux. Mais la recherche de la paix et de la joie n'est pas un refus de la souffrance. La paix et la joie sont vécus au niveau du désir spirituel, il est fort possible qu'une satisfaction à ce niveau coexiste avec une frustration de nos convoitises et de nos ambitions. Saint Thomas d'ailleurs le remarque. La participation au bien divin peut rencontrer quelques obstacles. Et c'est pourquoi la joie qui vient de la charité peut être mélangée de quelques tristesses. La charité ne supprime pas les souffrances corporelles et psychiques, et même morales et spirituelles. Mais en étant source de paix et de joie, elle nous aide à les supporter. Être malheureux et souffrir sont donc deux choses différentes, et souvent on le confond ça. Certes, selon l'usage habituel de la langue, la souffrance est une forme de malheur, mais ce n'est pas la forme la plus radicale, celle qui serait incompatible avec la charité. La souffrance, comme telle, n'est pas incompatible avec une paix intérieure et une joie spirituelle. Nous pouvons aimer de façon désintéressée, même quand nous souffrons, si notre amour pour Dieu nous procure un minimum de paix et de joie. En revanche, il existe une forme de malheur plus radicale, la perte de l'union avec Dieu. Il existe aussi une forme de tristesse particulièrement nuisible à la charité, le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire le sentiment de ne pas correspondre à un certain idéal moral que l'on s'est donné. Celui qui est animé par un tel sentiment ne parvient pas à trouver la note juste dans sa relation avec autrui. Et beaucoup de conflits interpersonnels viennent souvent de là. Il s'efforce de rendre service, mais on sent que c'est par devoir, et cela nuit à la qualité de la relation, la spontanéité de la relation. Le sentiment de culpabilité ne doit pas être confondu avec le sens du péché. Il ne faut pas confondre le sentiment de culpabilité avec la culpabilité de culpa, la faute. Hein, et le péché, effectivement, il porte sur la culpabilité. Le sens du péché est lié à l'expérience de la miséricorde de Dieu. Cette expérience, en nous introduisant dans le monde de la grâce, nous libère du sentiment de culpabilité et rend plus juste, plus légère, plus agréable notre relation avec autrui. D'où l'importance de se confesser régulièrement. Mentionnons enfin une souffrance qui non seulement n'est pas incompatible avec la charité, mais qui en provient, c'est la compassion et la miséricorde. Alors abordons maintenant la charité envers le prochain. Et tout d'abord, l'acte et le lien de la charité. La plupart des chrétiens ont le souci de pratiquer la charité envers le prochain. Espérons-le en tout cas. De façon spontanée, ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire en faveur de ceux qui les entourent. Saint Thomas, quand il étudie la charité envers le prochain, distingue le bien que la charité veut pour autrui, c'est-à-dire la charité comme bienfaisance, et celui pour qui l'on veut ce bien, la charité comme union affective. Or, la primauté revient à la charité comme union affective, puisque c'est d'elle que dérive la charité comme bienfaisance. C'est sur ce lien que la charité établie avec autrui que porte le poids de la réflexion de saint Thomas et que doit aussi donc porter la nôtre. Qu'une telle réflexion soit indispensable, cela apparaît clairement si l'on songe que, selon saint Paul, ce n'est jamais un acte extérieur comme une aumône, une prédication, enfin un acte extérieur de charité, qui suffit pour qu'un acte soit vraiment un acte de charité. L'objet principal de la charité est Dieu, mais l'amour de charité que nous avons pour Dieu s'étend aussi au prochain. Saint Thomas s'est exprimé à ce sujet de façon concise. La raison d'aimer le prochain est Dieu, car ce que nous devons aimer dans le prochain, c'est qu'il soit en Dieu. C'est court, mais c'est très profond. La raison d'aimer le prochain est Dieu, car ce que nous devons aimer dans le prochain, c'est qu'il soit en Dieu. Et aujourd'hui, je pense que c'est absolument pas évident, ce genre d'affirmation. Tout au contraire. L'affirmation porte sur le lien que la charité établit avec le prochain. Ce lien est fondé sur le fait que le prochain est destiné à voir Dieu, entrer en communion avec Dieu. Cette communauté de destin suscite un lien spirituel et ce lien nous incite à vouloir pour notre prochain tel ou tel bien corporel ou spirituel. Et dans cette perspective, on comprend que l'amour de charité qu'on a pour ses amis est plus ardent et plus parfait que l'amour de charité qu'on a pour ses ennemis, bien que, d'un autre point de vue, l'amour de charité pour l'ennemi soit prééminent. Plus intense, effectivement, en tant qu'acte à poser. En effet, le lien qui nous unit à nos amis est plus fort que le lien qui nous rattache à nos ennemis. C'est évident. Alors que souvent, l'acte de charité envers un ennemi est plus grand. Il résulte d'un plus grand amour de Dieu, d'un plus grand désir d'imiter Dieu, je dirais. Saint Paul dit, alors que vous étiez autrefois ennemis de Dieu, un Dieu vous a réconcilié dans son Fils. Alors parlons, tout en les distinguant, de charité et d'amitié. Pour éclairer ce qui vient d'être dit, il est utile de développer un petit peu une analyse de l'amitié. Le premier mouvement de sympathie que suscite en nous la rencontre d'autrui peut être considéré comme le degré zéro de la relation. Quand je dis degré zéro, c'est le début. Ce premier mouvement ne mérite pas encore le nom d'amitié, mais il coïncide avec cette passion que Thomas appelle amour d'amitié. Donc l'amour en tant que passion, passion humaine. Il convient de régler les mouvements de sympathie et d'antipathie, de rendre à autrui ce qui est juste et de se maintenir envers lui dans une disposition de respect. Alors, donc on pourrait, là on grandit sur l'échelle de la relation, d'amitié, hein. Après le degré zéro, le premier degré, régler les mouvements de sympathie, d'antipathie, et puis la disposition effectivement de respect, on pourrait appeler ça le deuxième degré de la relation. On peut parler d'amitié lorsqu'une sympathie bien réelle et réciproque se joint à un sentiment de respect de part et d'autre. Cette analyse de l'amitié, qui d'ailleurs correspond à l'expérience courante, nous permet de mieux situer la charité. La charité est liée à la destinée surnaturelle. Elle est d'un autre ordre que les liens d'amitié fondés sur la parenté, par exemple, la communauté de biens, d'intérêts, etc. Elle nous relie à tous les hommes, sans exception, dans la mesure où tout homme, selon sa nature, est appelé à faire partie avec nous de la même cité ou patrie céleste. La vocation de l'homme est unique, nous rappelle le Concile, à savoir divine. Cependant, elle ne nous établit pas dans la même relation vis-à-vis de tous les hommes. Et avec beaucoup de finesse, saint Thomas montre que l'intensité du lien de la charité avec le prochain dépend en fait de deux éléments. Tout d'abord, premier élément, le lien du prochain avec Dieu. Plus autrui est uni à Dieu par la charité, plus fort sera notre lien de charité avec lui. Et de fait, nous savons par expérience que quand une personne est profondément unie à Dieu, elle nous attire davantage. Ben oui, elle rayonne davantage du fait de son union à Dieu et donc ça nous attire davantage. Mais avec beaucoup de réalisme, saint Thomas souligne aussi, deuxième point, l'importance des liens naturels et amicaux que nous pouvons avoir avec notre prochain. Nous avons un lien de charité privilégié avec nos parents, nos amis, ceux qui vivent avec nous. Parfois, les deux éléments agissent en sens contraire. Tel de nos parents et amis ne croit pas ou ne croit plus en Dieu. Je pense spécialement dans le couple. Quand l'un est uni à Dieu et l'autre pas vraiment. Nous prions pour lui avec ferveur parce que sa conversion nous tient à cœur. Ou bien nous sommes attirés par une personnalité rayonnante de sainteté, mais que nous ne parvenons pas à approcher. Alors, après avoir parlé de charité et d'amitié, parlons de charité et d'affectivité. Comment Thomas construit-il ce lien ? Nous trouverons un éclaircissement dans un passage où saint Thomas montre que la charité ne se réduit pas au fait de vouloir du bien à autrui. Pour cela, il montre comment, au plan de l'expérience humaine ordinaire, l'amour entendu comme passion, passion d'amour, est différent du fait de vouloir du bien. Vouloir du bien à autrui est un pur acte de la volonté, sans cet élan intérieur qui caractérise l'amour-passion. Mais il montre toute sa perspicacité en soulignant que l'amour qui se trouve dans le désir spirituel dépasse cette opposition entre éros et agapé, deux formes de l'amour, hein, et comprend quelque chose de plus que le fait de vouloir du bien, à savoir une union avec autrui qui fait que nous le considérons comme un avec nous-mêmes. Et je cite saint Thomas. L'amour qui se trouve dans le désir spirituel diffère du fait de vouloir du bien. Il comporte en effet une certaine union affective de celui qui aime avec celui qui est aimé. Celui qui aime estime que celui qui est aimé est en quelque sorte un avec lui-même. En revanche, le fait de vouloir du bien à quelqu'un est un simple acte de la volonté par lequel nous voulons du bien à quelqu'un, même si on ne trouve pas au préalable une telle union affective. Et nous voyons à travers ces analyses très fines de saint Thomas se dégager une vision remarquablement équilibrée de la charité. Certains chrétiens insistent sur la vie intérieure au détriment de la vie active. Ah, moi, mon père, je suis un priant ou une priante, hein, donc ne me demandez pas quoi que ce soit comme service sur la paroisse. Moi, ma mission, c'est de prier, par exemple. D'autres, au contraire, insistent sur les œuvres au détriment de la vie spirituelle. À moi, dès que vous ferez appel à moi, je répondrai présent, mais ne me demandez pas de venir prendre un temps de prière, d'adoration. Ça, c'est pas mon truc. Certains se méfient de tout élément affectif. On peut se demander ce qui reste de la charité dans ces cas-là. Ou alors, pour les autres, c'est le tout affectif. Et à ce moment-là, l'amour de charité perd sa spécificité. De façon sobre et nuancée, saint Thomas met chaque chose à sa place. Dans la mesure où l'acte de la charité comprend des axes extérieurs portés par un élément intérieur, un tel acte sera accompli avec aisance et douceur, sans devenir gênant en raison d'un excès de sentimentalisme, sans devenir pesant en raison d'un excès de volontarisme. L'élan intérieur sera soutenu par la prière, tandis que l'activité extérieure bienfaisante pour autrui exprimera l'authenticité de cette vie de prière. Alors là, on a vraiment un équilibre, parce qu'on fait appel à toutes les dimensions du cœur, au sens biblique, du cœur de l'homme. Disons un mot justement sur la bienfaisance. La charité nous unit à notre prochain et nous incite non seulement à lui vouloir du bien, mais encore à lui en faire. C'est ce que saint Thomas appelle la bienfaisance. Et nous avons signalé que, de son point de vue, le lien de charité a la primauté sur l'acte de charité proprement dit. De fait, le lien de charité nous pousse à l'action concrète. En revanche, un acte qui, extérieurement, semble être un acte de charité, peut être accompli sans charité. Le climat d'hypersensibilité actuel ne nous fait pas voir spontanément les choses de cette manière-là. Beaucoup de nos contemporains, en effet, s'attachent surtout à l'action, comme ils disent, concrète, ce qui se voit, ce qui est tangible, éventuellement mesurable. Et j'en veux pour preuve l'extraordinaire développement de tout ce qu'on pourrait appeler l'humanitaire, hein, qui séduit beaucoup de jeunes d'ailleurs, à juste titre. Et dans la vie de l'Église, ce qu'on pourrait appeler les mouvements sociaux caritatifs. Il est vrai que toute charité authentique doit se traduire par des actes concrets. On l'a signalé. Et saint Thomas n'a pas estimé nécessaire de consacrer de longs développements à l'étude de ce que la charité requiert de chacun de nous. Il convient cependant de reprendre quelques-unes de ses réflexions sur ce qu'il appelait l'aumône et la correction fraternelle. Donc ces deux points, aumône, partage on dirait aujourd'hui, et la correction fraternelle. L'aumône, nous dit saint Thomas, consiste à donner à l'indigent, au pauvre, par compassion et pour l'amour de Dieu. Il est donc manifeste que donner l'aumône est proprement un acte de miséricorde. Et cela apparaît dans le mot « aumône » qui en grec dérive du mot « miséricorde ». Et puisque la miséricorde est un effet de la charité, donner l'aumône est un acte de charité moyennant la miséricorde, nous dit saint Thomas. Et de même que l'on peut accomplir certains actes vertueux sans être vraiment vertueux soi-même, on peut, sans avoir la charité, faire l'aumône matériellement, mais la faire formellement, à savoir pour Dieu, avec promptitude, avec plaisir, avec toute la perfection requise, c'est impossible sans la charité. Alors, c'est là qu'on voit vraiment la différence entre, on va dire, des gens généreux qui seraient prêts à donner jusqu'à leur chemise pour leur prochain et qui ne sont pas chrétiens, donc objectivement parlant, qui n'ont pas la charité, puisque cette charité est infusée en nous lors du baptême, et le chrétien qui, justement, a reçu comme vertu infuse à son baptême la charité, qui doit la mettre en œuvre. La charité nous incite à l'aumône, mais celle-ci ne se réduit pas à l'acte extérieur par lequel nous donnons de l'argent, par exemple, à un SDF dans la rue. Certains donnent de l'argent sans que ce don soit porté par un authentique amour de charité. Bien évidemment, on ne saurait tirer argument de cette remarque pour cesser de donner. Je le dis parce que certains, effectivement, disent « Ah, ben non, si ça ne consiste pas en cela, la charité, alors je ne donne plus. » Ben non. Même si notre charité n'est pas très ardente, il est quand même meilleur de donner que de s'endurcir, dans l'avarice en particulier, ou la recherche de plaisirs égoïstes, garder son argent pour soi, avec tout ce que cet argent nous permet d'acquérir. Mais il est encore meilleur de donner avec et par charité. À ce moment, l'acte est vraiment parfait, au sens de accompli. À la fois, il y a tout l'élan intérieur porté par la charité et qui va jusqu'à l'acte effectivement extérieur de donner à celui qui est dans la nécessité. Au Moyen-Âge, l'aumône ne consistait pas uniquement à donner de l'argent. Sous ce nom étaient regroupées la plupart des œuvres dites de charité. On en dénombrait sept, donc œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir ceux qui sont nus, exercer l'hospitalité, visiter les malades, racheter les captifs, ensevelir les morts. Les œuvres de miséricorde donc corporelles. Mais il y avait aussi sept œuvres de miséricorde spirituelle. Instruire les ignorants, conseiller ceux qui sont dans l'incertitude, consoler ceux qui sont tristes, corriger les écarts, pardonner les offenses, supporter les défauts, prier pour tous. Et ce que nous avons dit plus haut à propos des dons en argent peut bien évidemment se transposer à toutes les aumônes et toutes les œuvres de charité. Parmi toutes les œuvres de charité, la correction fraternelle a retenu l'attention de saint Thomas. De fait, cette correction fraternelle soulève un certain nombre de difficultés. Certaines fautes portent tort à la communauté dans son ensemble. Il est alors normal et nécessaire que l'autorité intervienne et sanctionne la faute. Il s'agit alors d'un acte de justice qui est réservé au responsable de la communauté qui est détenteur de l'autorité légitime. La correction fraternelle au sens strict concerne les fautes dans la mesure où celles-ci portent tort à celui qui les commet. Cette correction fraternelle est un acte de charité. Saint Thomas explique alors que tout frère peut inviter son frère à la conversion, même le subalterne vis-à-vis de celui qui a autorité. Mais il précise aussi qu'il convient d'agir avec discernement, humilité, patience. Parfois même, il est préférable de ne pas intervenir. Alors, une petite histoire pour illustrer ce propos. Un vieux frère dominicain meurt. Il a vécu vraiment en cherchant sans cesse à approfondir la pensée de saint Thomas, à la mettre en œuvre. Et à côté de lui, il y a la somme théologique ouverte, qui était lue et relue abondamment, annotée dans toutes les marges. Et la somme est ouverte sur la page, justement, de la correction fraternelle, où la question est posée, peut-on faire la correction fraternelle à son supérieur? Et en marge, le vieux père dominicain avait annoté, j'ai pratiqué, mais je déconseille. Voilà, ça c'est pour mettre un petit peu de détente. Et pour terminer toute cette réflexion en ce qui concerne la bienfaisance, il convient de préciser l'importance de cette notion dans toute la somme théologique de saint Thomas. En effet, dans le prologue de la troisième partie de la somme théologique, la tertia pars, troisième partie, saint Thomas expose l'objet propre de cette partie. La première partie était consacrée à Dieu et à son œuvre. La deuxième à l'homme, image de Dieu, et à ses œuvres. Et voici comment il exprime brièvement l'objet de cette troisième partie consacrée au Christ. Il est nécessaire pour l'achèvement de tout le labeur théologique Après la considération de la fin ultime de l'homme, la béatitude, des vertus et des vices, que suive la considération du Sauveur de tous et de ses bienfaits accordés au genre humain. Et le choix du mot « bienfait » nous apparaît maintenant lourd de signification. Considérer les bienfaits du Christ, c'est en fait considérer sa charité. Alors, avant de conclure, je dirais un mot qui pourra surprendre, la charité envers son propre corps. Que le corps soit bon et digne de respect, seul les manichéens le niaient. Et un chrétien ne peut accepter le mépris des réalités corporelles. On peut se demander toutefois s'il faut aller jusqu'à affirmer que le corps humain, doit être aimé d'un amour de charité. La réponse ne fait aucun doute pour saint Thomas. Dès lors que le corps, notre propre corps, est appelé à participer à sa manière à la béatitude. Et je cite saint Thomas, « Quoique notre corps ne puisse pas jouir de Dieu en le connaissant et en l'aimant, pourtant c'est par les œuvres que nous accomplissons au moyen du corps que nous pouvons parvenir à la parfaite jouissance de Dieu, la béatitude. C'est pourquoi de la jouissance de l'âme rejaillit aussi dans le corps une certaine béatitude, à savoir une certaine force de santé, d'incorruptibilité, comme le dit saint Augustin. Dès lors, puisque le corps participe d'une certaine manière à la béatitude, il peut être aimé d'un amour de charité. » Et voilà pourquoi, justement, on peut aimer son corps de charité, parce que le corps lui-même participe d'une, ou participera plus précisément, d'une certaine manière à notre propre béatitude. Nous avons vu que la charité envers soi-même passe avant la charité envers le prochain. Mais la charité envers le prochain passe avant la charité envers son propre corps. Et dans la pensée de saint Thomas et de saint Augustin, le corps ne s'identifie pas à la personne. Contrairement à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, où on dit de fait « je suis mon corps », pour eux, on ne peut pas dire ça. Mais il faut dire « j'ai un corps ». Alors, j'ai pas un corps comme j'ai n'importe quel objet, une voiture, un vélo, une maison, mais j'ai un corps. Cette petite nuance est importante. Elle permet de comprendre que la charité puisse aller jusqu'à accepter la mort corporelle, c'est-à-dire la perte de mon corps. Et on comprend que par charité envers le prochain, ça peut aller jusque-là. Dans le cadre de son exposé, saint Thomas n'a pas abordé la question de l'amour entre hommes et femmes. Cependant, il est clair que sa réflexion sur la charité envers le corps pourrait être reprise dans une perspective de spiritualité conjugale. Et là, je renvoie tout spécialement à saint Jean-Paul II et à la théologie du corps. Le développement de cette spiritualité dépasserait vraiment les limites là, de l'émission. Mais le point à retenir est que l'union par laquelle les époux forment une seule chair peut être assumée par la charité. Il est temps de conclure. À travers cette étude théologique chez saint Thomas de la charité, apparaît clairement le caractère relationnel de cette vertu. La charité est une disposition spirituelle qui présuppose une communauté de vie avec Dieu et qui établit un lien avec tout homme. Une comparaison peut alors être établie avec les vertus de religion et de justice. Celles-ci, prises à l'état de germe, sont constitutives de l'homme. La religion relie l'homme à Dieu et la justice relie l'homme à autrui. Et de façon semblable, la charité nous relie à Dieu et à autrui. Bref, à travers l'ensemble de ces trois vertus, saint Thomas s'efforce de penser les deux niveaux où l'homme déploie toute son existence. L'homme développe son humanité par l'appartenance à une communauté humaine, terrestre, mais il est aussi destiné à vivre dans une communauté nouvelle et éternelle, celle que Dieu rassemble autour de son Fils Jésus-Christ. C'est bien une même structure d'alliance qui apparaît à chaque fois un lien avec Dieu fondateur d'un lien avec autrui. Saint Augustin avait essayé de rendre compte du thème d'alliance, thème biblique de l'alliance, à travers la notion de religion. De la même manière, Thomas pense en direction de l'alliance telle que la Bible nous la décrit. Le langage scolastique de Saint Thomas ne doit pas faire illusion. Saint Thomas a repensé les notions de justice et de charité pour rendre compte à son tour, de façon aussi fidèle que possible, de tout l'enseignement de la Bible. Mais comment articuler le lien établi par les vertus de justice et de religion avec la charité? On ne saurait trouver une réponse à cette question dans le texte de Saint Thomas, pour la simple raison que cette question n'est pas posée par lui en ces termes. Mais pour nous, c'est certainement une question urgente à réfléchir en découvrant, par exemple, ce que nous dit la doctrine sociale de l'Église.